succès dans le monde, ce qui représente vraiment un challenge énorme encore aujourd'hui pour les pays africains. On voit que, en analysant un peu donc les politiques qui ont été mises en place et qui ont été annoncées par les gouvernements, on voit que ce chiffre baisserait d'ici 2030, mais de manière relativement faible, parce qu'on atteindrait 530 millions de personnes à peu près sans accès en 2030. Donc on voit vraiment le besoin d'accélérer encore les efforts et le progrès fait à ce niveau-là. On voit des choses très très positives dans notre analyse récente, avec une accélération vraiment du progrès qui a été multiplié par deux sur la période entre 2000 et 2018, qui a été multiplié par deux entre 2014 et 2018 comparé à la période qui précède. Ce qui est vraiment dû à des efforts qui ont été mis en place en termes politiques dans de nombreux pays, notamment en Afrique de l'Est, avec le Kenya, l'Éthiopie, la Tanzanie et l'Ouganda, qui représentent à peu près la moitié des gens qui ont gagné accès à l'énergie au cours des 5 dernières années. Et si je peux prendre un exemple, ce serait celui du Kenya, qui a vraiment aujourd'hui réussi à améliorer grandement et accélérer grandement les efforts qui ont été faits, en passant de 25% d'accès à l'énergie en 2013 à 75% en 2018, ce qui est un effort qui a été rarement vu dans le monde. Et je pense que c'est d'après nos analyses dû à différents facteurs, notamment avoir poussé le réseau qui a réussi à connecter environ 1 million de foyers par an au cours des 5 dernières années, mais aussi grâce au décentralisé qui a permis au total de connecter environ 700 000 foyers sur la période. Donc ce qui représente quand même un effort vraiment colossal. Et de manière générale, ça traduit aussi l'évolution qu'on observe avec le réseau qui a jusqu'à maintenant quand même permis de connecter la majorité des gens, mais avec une accélération du décentralisé, où on a vu sur l'ensemble du continent qu'il y a 5 millions de personnes qui ont gagné accès à l'électricité via le décentralisé au cours de l'année 2018, comparé à 2 millions de personnes en 2016. Donc, ce qui montre une accélération vraiment de cet effort-là et de ces connexions. Et on pense que ce sera central à l'avenir pour réussir à atteindre l'objectif d'accès universel à l'énergie d'ici 2030. Et on voit aussi, pour rester sur ces côtés très positifs qu'on a observés, sur les années à venir, on observe aussi qu'il y aura a priori plusieurs pays qui arriveront à atteindre l'accès universel à l'énergie. Si la tendance actuelle se poursuit et si les politiques se mettent bien en place d'ici 2030, notamment le Kenya, l'Éthiopie, le Ghana, le Rwanda et le Sénégal, qu'on voit aujourd'hui vraiment comme les pays un peu qui arrivent vraiment un peu leader sur ce sujet-là, grâce à des politiques très très globales et complètes mises en place. Et le Nigeria aussi, qui arrive vraiment à accélérer les efforts, même si c'est vrai que le nombre de la population très très forte et la croissance de la population dans le pays arrive malheureusement à réduire un peu et pas forcément le permettre d'atteindre l'accès universel d'ici 2030. Mais du coup, la question qui se pose, c'est comment arriver à accélérer les efforts et quelles solutions sont les plus appropriées pour ce faire. On a mis en place, nous, depuis quelques années, une analyse géospatiale qui essaye d'analyser vraiment quelles sont les least cost technologies. Désolé, j'aurai quelques mots en anglais sûrement, parce que c'est vrai qu'on est habitué à plus se présenter en anglais et tout le rapport est écrit en anglais pour le moment. Juste pour faire un petit point là-dessus, pour les Français et les francophones, surtout qui sont intéressés par le rapport, on aura un webinaire qui sera le 25 novembre organisé. Donc n'hésitez pas à venir me donner votre contact pour que je puisse aussi vous être sûr que vous avez les dernières informations sur le webinaire en français qui sera organisé. Mais du coup, pour revenir à cette analyse qu'on a réalisée sur least cost technologies, pour pouvoir permettre l'accès universel à l'énergie d'ici 2030, donc on a mis en place cette analyse géospatiale avec KTH, DESA, qui est une université suédoise. Et on a du coup essayé de voir du coup qu'est-ce qui est le plus rentable, on va dire, en termes de coûts pour atteindre les différentes populations qui sont aujourd'hui non connectées. Est-ce que c'est plus le réseau, donc est-ce que c'est une grid densification, grid extension, est-ce que c'est plus des mini-réseaux, et si oui, quelle technologie, ou est-ce que c'est plus les systèmes décentralisés, Solar Home Systems. Et du coup, on a fait cette analyse au sein des 44 pays africains, avec un focus un peu plus particulier sur 11 pays qu'on présente dans le rapport, à la fin du rapport, dans des profils par pays, où on a des cartes un peu précises sur quelles solutions seraient mieux pour quelles zones. Et je vais peut-être prendre juste une minute pour essayer d'expliquer un peu la méthodologie qu'on a utilisée. Je pense que c'est assez important sur ce sujet-là. Et du coup, on a utilisé différents types de données, notamment les données qui sont issues du modèle africain qu'on a mis en place et développé au sein du World Energy Outlook, et qu'on a vraiment amélioré aussi cette année avec une granularité beaucoup plus forte, avec une analyse précise de différents pays, ce qui n'avait pas forcément été fait avant. Ça permet aujourd'hui d'avoir des données assez précises sur les coûts, sur des projections de la demande qu'on a analysées aussi, et de pouvoir avoir cet input là dans le modèle géospatial qu'on utilise. Et en parallèle, on utilise aussi les données de KTH qui ont été récoltées en termes de données géospatiales qui permettent d'avoir des informations sur la démographie, donc la distribution de la population, la densité de la demande de cette population, sur les infrastructures aussi, donc les réseaux existants et planifiés par le gouvernement, sur les routes, sur les ressources qui sont aussi disponibles localement, en termes de solaire, d'éolien, etc. Et aussi de pouvoir après calculer différentes autres facteurs qui vont être déterminants pour choisir quelle technologie serait la plus appropriée, c'est-à-dire la distance au réseau national, la distance à la route, le coût aussi de pouvoir aller collecter du fuel, du diesel dans la ville la plus proche, ce qui va avoir aussi un impact énorme sur le coût du diesel par exemple, du générateur. Et donc ce qu'on voit, c'est que il faudrait arriver à avoir une approche qui est très complète de l'accès, qui pousse à la fois le grid, donc la densification du réseau, mais aussi l'extension du réseau, et en parallèle permettre de pouvoir étendre l'accès à des solutions décentralisées, telles mini-réseaux et décentralisées. Et on voit que 45% de la population gagnerait accès de la manière la plus rentable possible à travers le grid, donc le réseau, et 55% à travers des solutions décentralisées telles que mini-réseaux et standalone systems. Ce qui ferait un total pour les solutions décentralisées d'environ 400 millions de personnes, donc ce qui montre quand même vraiment le potentiel énorme de ces solutions-là pour pouvoir permettre un premier accès à l'électricité. C'est vrai qu'elles ont l'avantage, ces solutions-là, de pouvoir être étendues rapidement, de pas être soumises aux contraintes structurelles de devoir étendre le réseau de manière assez éloignée par rapport au réseau actuel. Et du coup de pas obliger des personnes à devoir attendre et à devoir utiliser des solutions qui sont plus polluantes et beaucoup plus chères aussi au jour le jour et plus risquées pour pouvoir avoir un accès à l'électricité. Alors bien sûr, ça pose aussi plein de questions, je pense, qui seront discutées aujourd'hui sur l'impact de ces solutions-là, comment maximiser cet impact-là, comment faire en sorte que l'accès à ces solutions permette un accès à une électricité qui est affordable pour la population et qui est aussi fiable. Donc c'est des solutions qui seront des points qui seront, j'imagine, discutés un peu plus dans la table ronde d'aujourd'hui. Mais si je peux juste insister sur un dernier petit point sur comment transformer ce potentiel en réalité, ce qu'on voit du coup, c'est l'importance vraiment d'avoir une planification qui soit un peu complète et qui permette à ces solutions, aux différentes solutions d'accès, d'être complémentaires et non de venir en concurrence l'une de l'autre. On voit clairement beaucoup dans les discussions sur les mini-réseaux et sur les SHS, sur la potentielle concurrence une fois que le réseau arrive, qui pose beaucoup de problèmes pour pouvoir s'engager et investir dans le réseau. Et on voit beaucoup de choses positives sur cette planification un peu intégrée des différentes solutions, avec l'Éthiopie, le Sénégal, le Kenya, qui ont déjà commencé à aujourd'hui annoncer publiquement et à proposer des rapports, des analyses un peu sur quel est pour eux le rôle des différentes solutions pour permettre l'accès. Et c'est vrai qu'avoir cette clarification-là est vraiment importante pour avoir une vision un peu de quel type d'investissements vont être nécessaires, clarifier vraiment le rôle des acteurs aujourd'hui. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qui est assez essentiel à pousser. Et l'analyse géospatiale en tant que telle, et arriver à adapter aussi cette analyse-là vraiment aux contraintes nationales, je pense que ce sera assez essentiel. Et c'est ce qu'on va aussi essayer de pousser nous à l'AIE pour permettre un accès un peu plus ouvert à ces solutions-là d'analyse. Et donc voilà, pour conclure, c'est vrai que c'est un peu la première étape pour nous d'un grand travail sur aussi travailler plus avec les gouvernements et les acteurs sur ce sujet-là et sur le sujet de l'énergie en Afrique. Et donc n'hésitez pas à venir discuter avec moi aussi après si vous avez des idées de travaux collaboratifs qu'on pourrait réaliser à l'avenir. Merci.
Merci Arthur. c'est où c'est. De toute façon, je pense que sur tout ce qui est décentralisé, on passe de premières étapes en premières étapes, hein, puisque on a constamment soit des innovations, soit des réflexions nouvelles, soit même parfois des constats assez négatifs en se disant on pensait que ça marchait, ça marcherait pas, ça ne marche pas. Donc sans trop tarder, on va passer la parole à Kenneth. Dans cette session, l'idée c'est de demander à un panel finalement très très divers de praticiens d'évoquer un tout petit peu ce que dans leur projet l'évaluation veut dire, grosso modo comment on traite cet sujet, quelles sont les questions qu'ils se posent, et lorsqu'ils se sont posé la question, quel type d'impact ils recherchent, comment ils les recherchent, et est-ce qu'ils ont des outils à leur disposition qui les satisfont dans cet objectif. Pour Angeli et pour Iris, j'ai ce micro que je vous passerai parce que vous êtes loin des micros centraux. Kenneth, à toi.
Bon, merci Christophe. Ça marche ça. Ah oui, ça marche là. Je sais absolument pas par quel bout commencer. Ok, donc du coup, en fait, je pense que ce qu'on va essayer de faire dans ce panel, c'est d'écouter nos différents experts sur leur approche de l'évaluation. Qu'est-ce qui a été tenté en termes d'électrification rurale, qu'est-ce qu'ils en ont appris et puis échanger en fait sur ça. Donc je vais pas monopoliser la parole, je vais plutôt la passer aux personnes qui sont sur le terrain et qui ont sans doute eu à déployer des approches innovantes pour augmenter la couverture de l'électricité et puis essayer de discuter avec eux des résultats de leurs différentes expérimentations. Donc je vais passer en fait la parole à Hervé Gouillet d'Électriciens sans frontières.
Voilà. Donc le concept de Café Lumière, en fin de compte, est le fruit de 30 ans de projets d'accès à l'électricité menés par Électriciens sans frontières. Alors des projets qui sont par nature assez variés, puisqu'on est actuellement par exemple en train de former des techniciens au métier d'électricien dans les camps Rohingyas à l'est du Bangladesh. On est en train d'aider au développement de la filière photovoltaïque sur l'île de la Dominique à la suite du cyclone Maria, en électrifiant des centres de santé avec à la fois de l'autoconsommation, du stockage et de l'injection. On est en train on a un gros programme de pompage solaire sur Bénin, Burkina, Togo, sur l'amélioration à la fois des techniques, le développement de la filière de maintenance et de suivi. Et comme vous le voyez là, dans la vidéo, le développement d'électrification villageoise. Donc en 30 ans, on a réalisé quelques dizaines de mini-réseaux dans des situations très différentes, entre le Mali ou le Laos, en passant par la Palestine, avec des solutions assez variées. Et tous ces projets ont fait l'objet de beaucoup d'évaluations. Mais ces évaluations ont permis d'être plutôt pour regarder le bon fonctionnement des installations au bout d'un an, au bout de deux ans, au bout de cinq ans, ce qui a permis d'identifier un certain nombre de facteurs de réussite ou de facteurs d'échec. Dans ces facteurs d'échec, qui sont à contrario le miroir de ce qu'il faut faire pour avoir des réussites, on avait le bon dimensionnement des installations, c'est-à-dire qu'il faut bien partir de l'analyse des besoins pour pas surdimensionner des installations qui, en étant surdimensionnées, conduiraient à la faillite de cette électrification rurale. Il faut former les techniciens sur place. Il faut avoir une bonne gouvernance, donc des partenaires fiables. Tout un tas de sujets qu'on a déjà pu partager. En 30 ans, il y a quand même deux ruptures fortes. C'est-à-dire que tous les mini-réseaux qu'on a pu installer dans les années 90 était basé sur des groupes électrogènes. On a installé des premiers groupes électrogènes au Maroc ou en Mauritanie ou au Mali. C'est des choses qu'on ferait plus aujourd'hui en termes de technologie pour faire des mini-grids. Voilà, faut pas s'interdire de faire de l'hybride, mais ça serait pas l'énergie unique et entière, parce que la deuxième rupture, c'est la prise en compte du changement climatique. Depuis 90, on a quand même eu des évolutions très très fortes par rapport à ça. Il y a quelques constantes sur 30 ans pour nous, qui sont notamment la prise en compte de l'efficacité énergétique dès le début des projets. Quand on a fait nos premiers projets en Palestine, au lieu de renforcer la puissance du mini réseau, on a développé un programme d'efficacité énergétique sur les frigos, qui étaient la première source de consommation, c'était les frigos. Les populations n'avaient pas les moyens de s'acheter des réfrigérateurs basse consommation, et donc on avait mis en place un fonds revolving qui permettait sur leur facture d'électricité de rembourser l'achat des frigos. Dans les constantes, il y a aussi le continuum des solutions. C'est-à-dire qu'on a jamais eu dans les mini réseaux qu'on implémentait un mini réseau qui ambitionnait d'électrifier l'intégralité du village. Et bien d'avoir un noyau dur avec un mini réseau, mais potentiellement des panneaux solaires pour les écarts, c'est ce qu'on avait fait à Chinguetti en Mauritanie, ou de la recharge de lampes portables qu'on avait développé en 2002, la recharge de lampes individuelles au Cambodge. Dans les constantes, on a aussi un problème qui est récurrent. C'est l'électrification des usages. C'est pas parce qu'on amène l'électricité qu'on développe de façon automatique la consommation pour un certain nombre d'usages, parce que quand on est habitué à s'éclairer avec une lampe à pétrole, la bascule vers une lampe à LED est pas forcément si automatique que ça. Sur la lumière, on arrive encore assez facilement. Sur d'autres usages, c'est pas forcément aussi simple. Donc, Café Lumière, c'est un peu une synthèse, une tentative de synthèse de tous ces enseignements. Vous voyez sur la vidéo, voilà, c'est un mini réseau hybride avec un continuum de solutions, avec des SHS qui peuvent être loués, des lampes qui peuvent être rechargées, mais aussi des services énergétiques, puisque la finalité c'est pas de fournir du kilowattheure, c'est de rendre un service. C'est-à-dire que dans le Café Lumière, il peut y avoir un congélateur qui est mis à disposition des populations. Il y a systématiquement les trois cibles de consommateurs qui sont visées, les ménages, les activités économiques et les services collectifs. Il nous semble important que systématiquement on s'adresse à ces trois cibles, parce que c'est les activités économiques qui vont tirer la rentabilité du mini réseau et des ouvrages de production. C'est important d'amener la lumière dans les ménages, dans les foyers, parce que c'est un facteur clé d'appropriation par les populations. Mais si on veut contribuer au développement, il faut électrifier les écoles, il faut électrifier les centres de santé, parce que c'est par là que le développement aussi passera. C'est un opérateur local qu'il faut faire émerger, donc ça veut dire une certaine taille critique d'une installation pour qu'il y ait un petit opérateur qui puisse vivre et qui soit intéressé à entretenir, exploiter correctement et développer l'installation. Donc, grâce aux évaluations, on voit ce qui marche, ce qui marche pas. Arthur, lui, il voit le pourcentage de ceux qui ont accès à l'électricité. Nous, ça, c'est sa grille d'analyse. Notre grille d'analyse en tant que technicien, jusqu'à présent, c'était ça marche, ça marche pas. C'est-à-dire qu'on a une culture de techniciens. Électriciens sans frontières, c'est une ONG qui mobilise 1300 bénévoles, qui sont des salariés, des anciens salariés du secteur de l'énergie. Donc c'est des techniciens, c'est des ingénieurs avec cette culture de métier. Et donc aussi une culture de la capitalisation, du retour d'expérience sur qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas. Alors si ça marche pas, mécaniquement on peut imaginer qu'il ne doit pas y avoir beaucoup d'impact derrière. Encore qu'il y a un impact quand ça marche pas, c'est qu'on perd potentiellement la confiance dans des nouvelles solutions. Et ça, ça peut être un impact assez négatif. Si on propose des solutions qui s'arrêtent au bout de 6 mois, on n'aura pas tellement envie de refaire l'expérience un an après. Donc si ça marche, c'est qu'il y a des impacts. Vraisemblablement, on améliore les conditions de santé, on améliore le développement économique. Mais c'est pas mesuré, c'est pas quantifié, c'est du déclaratif. Et c'est difficile d'isoler l'effet de l'accès à l'électricité sur ce développement de l'amélioration des conditions de santé, l'amélioration de l'éducation, parce que c'est déclaratif, on n'a pas de comparatif, on n'a pas fait d'état zéro avant de mettre en place les solutions. D'où le travail, et c'est pour ça que vous voyez le petit logo de la Ferdi à la fin du film, ce travail qui a été initié en 2016 avec la Ferdi pour essayer de mesurer l'impact de l'accès à l'électricité dans le développement, en s'inspirant des travaux d'Esther Duflo sur l'expérimentation aléatoire. Et donc on a décidé de travailler ensemble avec Christophe Laferdi et toute l'équipe, de voir comment on pouvait, à partir du moment où on avait engagé un programme de 6 cafés-lumière à Madagascar, qui est déjà une première petite taille critique d'expérimentation, de voir comment on pouvait mettre en place une étude d'impact qui aille au-delà de « ça marche, ça marche pas ». Donc on a choisi 12 villages et aléatoirement on a choisi dans les 12 les 6 qui ont été électrifiés et on a fait une première situation de référence en 2017 en recueillant un maximum d'éléments sur la consommation, la population, les tranches d'âge, enfin je vous en passe, il y a un gros rapport qui fait cet état zéro en 2017. Les cafés-lumière ont été mis en service depuis un an, donc les 6 cafés-lumière sont en service. Et donc il y aura une première étude d'impact, et donc on repassera dans les 12 villages pour voir comment on peut évoluer ceux qui n'auront pas été électrifiés et comment ont évolué ceux qui ont été électrifiés. Donc prochaine étude en 2021. Pour avoir un petit peu de recul sur le fonctionnement des cafés lumière et une deuxième en 2023. On est convaincu que c'est utile de faire ce travail. On est convaincu qu'on devrait voir une différence. On l'espère fortement. Par contre, on est sur un mécanisme qui est long entre le moment où on a décidé de faire notre programme. Le moment où l'AFD a accepté de nous le financer, le moment où on le met en service, ou le moment où on arrivera à vous présenter les résultats, il sera écoulé quelques années. Donc la situation des technologies aura évolué, d'autres facteurs auront pu impacter la situation à Madagascar. Donc voilà, on aura des éléments à vous présenter, j'espère, en 2021, après la prochaine enquête, et une deuxième vague en 2023. Mais entre 2015, où on a déposé le dossier à l'AFD, et 2023, où on aura la fin de l'étude, il sera écoulé 8 ans, c'est un temps long. C'est aussi un temps cher, parce que c'est des études qui sont relativement coûteuses, qui au final coûteront pratiquement 10% du prix du projet. Ce qui est relativement important, ça veut dire que si on n'avait pas fait cette étude-là, on aurait pu électrifier un village supplémentaire. C'est un arbitrage qui n'est pas forcément si simple, c'est pas si simple que ça. Et d'autant que ce surcoût, tout le monde est intéressé par l'avoir, mais personne ne veut le payer. Je vous préviens que la restitution des résultats, l'entrée sera gratuite. Mais la sortie sera payante. Voilà. Rendez-vous dans quelques mois.
Du coup, je vais passer la parole à Iris pour qu'elle nous présente les travaux à l'ADEME. Que fait l'ADEME en termes d'évaluation d'impact?
Bah, bonjour à toutes et à tous. Merci à La Ferdi et au Club Air pour l'organisation et pour l'invitation. En fait, je vais d'abord vous présenter très rapidement l'ADEME, ensuite aussi un peu ce qu'on fait dans le domaine de l'accès à l'énergie. Et effectivement, après, je vais aborder la question de l'impact et de l'évaluation. Donc l'ADEME est l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. C'est un établissement public qui est sous la tutelle conjointe des ministères de la Transition écologique et solidaire et du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Donc en fait, on travaille dans les domaines de la transition énergétique, écologique, environnement, développement durable, et on appuie la mise en œuvre de politiques publiques, on fournit de l'expertise et du conseil, et on soutient aussi le financement de certains projets innovants dans nos domaines d'intervention. Donc en fait, on est très actif à l'international, mais on a aussi une équipe qui travaille à l'international, dont je fais partie, et qui fait un peu les mêmes choses. Donc en fait, dans ce cadre, nous avons travaillé une bonne trentaine d'années dans les thématiques d'accès à l'énergie, notamment en Afrique, en partenariat avec avec des acteurs locaux en fait. Et du coup, au cours de ces années, nous avons soutenu l'émergence de plusieurs projets innovants. Et nous en avons un peu tiré les leçons au fur et à mesure. Donc en fait, dernièrement, on s'est beaucoup concentré sur la thématique de l'innovation pour l'accès à l'énergie, notamment dans le cadre d'une initiative internationale qui s'appelle Mission Innovation, qui a été lancée lors de la COP21 et qui vise en fait à renforcer les financements publics et privés dans la recherche et développement des technologies bas carbone. Donc dans ce cadre, en fait, il y a la France et l'Inde qui sont copilotes d'une thématique, d'un challenge sur l'accès à l'électricité au réseau. Donc c'est en fait dans ce cadre qu'en 2017, nous avons lancé un premier appel à projet sur l'innovation pour l'accès à l'énergie au réseau, en partenariat avec le ministère de la Transition écologique et solidaire. Et en fait, pour nous, c'était vraiment une première fois, une première expérience. Du coup, le but, c'était de soutenir des projets qui étaient portés par des ONG ou des entreprises françaises qui avaient des partenaires locaux et qui, du coup, développaient des technologies. Mais quand je parle des technologies, c'est pas uniquement technologique, innovation, pas seulement technologique, mais aussi sociale, sur les modèles d'affaires, l'organisation, etc. Donc, nous avons reçu beaucoup de candidatures, ce qui montre le fort intérêt dans cette thématique, et pour des petit montant en fait de financement, ça allait autour des 200 000 plus ou moins euros. Et en fait, à la fin du processus de sélection, nous avons sélectionné du coup 9 projets qui ont tous lieu en Afrique et qui justement, il y en a certains, au moins 3 qui sont vraiment concentrés sur l'aspect technologique et d'autres en fait qui associent les deux, innovation technologique et innovation sociale, et d'autres qui sont plus sur l'innovation sociale. Donc en fait, tous ces projets sont en cours de réalisation et la majorité va terminer d'ici la fin du premier semestre de 2020. Donc en fait, nous avons prévu d'organiser un premier événement pour tirer les premières leçons en 2020 et on envisage une évaluation des impacts de ces projets, mais je vais revenir sur ce point plus tard. Donc en fait, grâce à cet appel à projet et donc à cette mobilisation de tous ces acteurs français, on a vraiment essayé de la garder vivante et du coup en 2018, et en 2019, on a lancé plusieurs initiatives pour continuer à travailler sur ces sujets, dont notamment la création d'un groupe de travail national qu'on pilote avec le syndicat des énergies renouvelables et qui en fait rassemble beaucoup, enfin, je ne peux pas dire toutes, mais quand même beaucoup de parties prenantes de l'accès à l'énergie, parce qu'en fait, il y a des établissements publics, il y a des ONG, des entreprises, des régions, des centres de recherche, des universitaires. Donc voilà, on a vraiment essayé d'avoir un large spectre d'acteurs sur cette thématique. Et pendant un an, on a travaillé sur 4 sous-thématiques qui concernent l'accès à l'énergie, donc les aspects réglementaires, la coopération entre les différents acteurs, l'innovation et le financement. Donc en fait, toutes ces discussions qui étaient nourries hein, des retours d'expérience de tous les praticiens de ce domaine vont aboutir dans la création de plusieurs livrables qu'on est en train de finaliser, c'est-à-dire un livre de recommandations, une brochure qui présente le savoir-faire français dans ce domaine et qui sera mis à jour régulièrement, du moins la version informatique. Ensuite, on va mettre à jour une cartographie des projets d'énergie renouvelable qui existent déjà et qui a été élaborée par nous et le CER à l'occasion de la COP21 pour ajouter une une catégorie sur l'accès à l'énergie. Donc vraiment tout un travail de mise en valeur de ce qui se fait en France. Et également, on a essayé de recenser tous les acteurs académiques qui travaillent dans ce domaine. Donc on n'a pas forcément eu beaucoup de retours sur ces derniers points. Donc là, je sais que vous êtes tous concernés par ce projet, par ce sujet. Donc n'hésitez pas à revenir vers nous pour consolider un peu cette base de données pour qu'on sache qui travaille sur ce domaine dans le domaine académique. Donc voilà, tous ces travaux en fait ont alimenté des réflexions qu'on avait avec l'Agence française de développement, qui du coup est aussi membre de ce groupe de travail, et avec laquelle nous avons travaillé et lancé un deuxième appel à projet qui s'appelle Solinet, solution innovante pour l'accès à l'énergie durable hors réseau, qui est sorti le 16 septembre et va clôturer le 16 décembre à 18h, et qui, du coup, en fait, il vise à soutenir des projets innovants d'accès à l'énergie durable qui sont portés par des entreprises ou des ONG en partenariat avec des acteurs locaux, en Afrique exclusivement, et dans la perspective de leur déploiement à plus grande échelle. Donc les deux thématiques de l'appel à projet sont l'accès à l'électricité et les formes durables de production de chaleur et de froid, donc notamment la cuisson, qu'on oublie souvent mais qui est très important. Et l'enveloppe dont on dispose, c'est d'1,6 million, donc c'est pas énorme. Mais en plus de ça, en fait, on propose aux lauréats un accompagnement sur 2 ans. Qui s'adaptera un peu aux besoins des lauréats, mais qui inclut aussi un volet d'évaluation, de suivi et évaluation des projets. Donc voilà, en fait, à horizon 2020-2021 et tout, nous, on a deux évaluations qu'il faudra faire. L'évaluation des 9 premiers lauréats de l'ancien appel à projet et cette deuxième vague qui va intervenir d'ici l'année prochaine. En sachant qu'en fait, dans le passé, nous avons travaillé sur un outil, en fait, qui s'appelle la grille REX, un outil d'évaluation et d'analyse des projets d'électrification rurale décentralisée, qu'on avait développé avec le soutien du cabinet Métrol. Ça remonte un peu, mais en fait, on l'avait testé, notamment dans le cadre de notre coopération avec EDF au Mali. Et on a aussi développé un guide d'évaluation de l'impact des projets énergétiques sur le développement humain, toujours dans cette volonté vraiment d'évaluer les impacts. Donc en fait, c'est des outils qu'on a déjà et qui seraient vraiment très intéressants de reprendre. C'est sûrement, ils méritent d'être mis à jour et tout, mais en fait, ils permettaient une évaluation vraiment de tous les spectres des impacts sur la santé, sur les développements économiques, sur les activités quotidiennes des foyers, etc. En sachant que cet outil, la grille REX, permettait vraiment aussi un suivi du projet à partir du montage jusqu'à l'évaluation. Donc c'est vraiment quelque chose qui est utilisable tout au long du projet. Donc voilà.
Merci Iris. Du coup, on va écouter Salou Amidine de l'Agence d'électrification rurale du Niger.
Merci, bonjour tout le monde. Nous sommes donc de l'Agence nigérienne de promotion de l'électrification en milieu rural, Ampère. Donc, je commence par présenter le contexte du pays, le Niger, qui est un pays du Sahel enclavé, au cœur de l'Afrique de l'Ouest, qui a une population qui a été estimée en 2012 à 17 100 000 habitants, avec un taux de croissance démographique le plus élevé, 3,9% par an. Un PIB, un taux de croissance de PIB de 5%, qui regorge presque de toutes les ressources énergétiques, sources primaires de transformation en électricité. Ce pays pose tellement de problématiques énergétiques, d'abord, en matière de l'indépendance énergétique. Nous sommes en 2014 un grand importateur de l'énergie. Donc, le Nigeria fournit plus de 60% de l'énergie qui est consommée au Niger. Et on a un taux d'accès à l'électricité sur le plan national qui avoisine 14%, qui cache une grande disparité entre les centres urbains et les zones rurales. En zone rurale, en réalité, il est à peu près à 1%, là où vit 80% de la population. Et c'est dans ce contexte de déficit d'accès à l'électricité donc, que l'Agence nigérienne de promotion de l'éducation rurale a été créée en 2013 et elle a rendue opérationnelle en 2015. Et la promotion principale, la conception, la mise en œuvre et le suivi de développement des programmes de l'éducation rurale sur toute l'étendue du territoire. En décembre 2017, ici à Paris, s'est tenue une conférence des investisseurs pour financer les programmes de développement économique et social 2016-2021 du Niger. Et dans ce programme, il est reconnu fortement la nécessité de fournir l'énergie à toute la population du Niger, d'autant plus que le Niger a identifié, a fait de cela son cheval de bataille, de pouvoir transformer en 2021 le monde rural. Donc, les moderniser et améliorer les cadres de vie de la population. Il s'est avéré que l'accès à l'électricité est l'un des véhicules donc, qui permettra d'atteindre cet objectif. Et c'est en connaissance de cela que nous avons accéléré le processus d'une définition donc, d'une politique d'accès à l'électricité et une stratégie d'accès à l'électricité à l'horizon 2035 qui doit garantir un accès universel à toutes les populations du Niger. Et cette stratégie donc, envisage de faire l'extension et la densification des réseaux qui doivent couvrir 80% et les 20% doivent venir de solutions décentralisées, soit par la diffusion des kits solaires individuels ou par le développement des mini-réseaux. Tout en ayant donc, à l'esprit effectivement les trois niveaux d'accès à l'électricité. Donc, le premier qui concerne donc, la satisfaction des services de base, qui concerne l'éclairage, l'accès des populations aux soins médicaux appropriés, la communication, et ainsi de suite. Et le deuxième niveau d'accès, effectivement, c'est apporter l'électricité à la population pour pouvoir servir de force motrice et augmenter la productivité donc, agricole. Et en fin de compte, donc, le troisième action qui doit être graduel à long terme, c'est effectivement c'est moderniser tous les villages du Niger. Donc c'est à ce titre que l'Agence nigérienne de promotion de l'éducation rurale a su faire une forte mobilisation autour des bailleurs au développement du Niger, qui accompagne le Niger. Et c'est à ce titre que nous enregistrons les financements des différents bailleurs que vous voyez sur le tableau, donc avec la Banque mondiale qui intervient avec un financement de 50 millions de dollars en phase pilote pour pouvoir permettre l'accès de presque 390 000 ménages. Par rapport au projet pilote de la Banque mondiale, nous envisageons de construire quelques 11 mini-réseaux hybrides. Et là, on cible donc à peu près 11 000 ménages, c'est pas 1100, c'est 11 000 ménages. Et nous avons des partenaires comme la BOAD qui finance aussi l'électrification des 47 microcentrales hybrides. Et là, la cible, donc, c'est à peu près 7 500 ménages. Sur le fonds propre de l'Ampère, nous envisageons où nous sommes en train de faire de la pré-électrification, donc, à travers la diffusion des kits solaires individuels, et ainsi de suite. Donc, ce qui fait que, pour le moment, c'est à peu près 180 millions de dollars qui ont été mobilisés pour pouvoir accéder à plus de 124 111 ménages au Niger. Et quels sont les critères, les cibles, quelles sont nos cibles de l'éducation, effectivement, par rapport à tous ces financements? Donc, c'est premièrement, en conformité avec la stratégie d'accès, effectivement, c'est de voir les zones qui sont éligibles pour les mini-réseaux et les zones qui sont éligibles pour la diffusion des kits solaires. Primo, donc, nous tenons en compte la densité de la population pour satisfaire donc, l'objectif 2021 de faire accroître le taux d'accès qui est de 14% à 22%, en milieu urbain et de 1% le multiplie par 10 en milieu rural. La présence, on reconnaît la présence des infrastructures communautaires comme les centres de santé, les écoles, les lieux de culte, les activités génératrices de revenus, les espaces maraîchers, les mini-adductions d'eau potable, les places publiques et les centres de récréation. Telles sont des composantes donc, qui constituent tous ces projets d'électrification rurale au Niger. J'ai pris l'exemple de quelques projets qu'on a réalisés et les impacts de ces projets donc, au Niger. Par exemple, ici, nous avons un projet qui est financé par la BIDC qui consiste donc à électrifier 50 villages. Sur ces 50 villages, donc voilà les cibles. Le nombre de ménages à électrifier doit être 3000, plus de 3000, c'est 3700 ménages. Le nombre d'écoles à électrifier, 43. Le nombre de centres de santé à électrifier, 43. Les lieux de culte à électrifier, 43. Et les mini-adductions d'eau potable, 10 en nombre. Le deuxième exemple consiste à expliquer les impacts des projets de pré-électrification sur le financement du Conseil de l'Entente, donc, qui avait depuis 2014 envisagé d'électrifier un village par an, par pays membre. Et là, le Niger donc, a bénéficié de 4 projets, c'est la période 2014-2018. Et les impacts de ces projets donc, se présentent comme sur le tableau. Le premier projet qui a été réalisé donc, dans la région de Dosso, notamment dans le village de Sabon Garifoga, qui a une population de 2450 habitants. Le nombre de ménages dans ce village s'élève à 350. Le nombre de ménages bénéficiaires, il y a 5 ménages qui ont bénéficié de pré-électrification par des caisses solaires individuelles. Et le nombre de personnes touchées par le projet, 700. Et autres bénéficiaires, 10. Donc, ainsi de suite, dans la région de Dosso aussi, il y a le village de Nakigaza Sarkiorafi, le village de Angol-Gaja dans la région de Zender et le village de Atri dans la région de Dagadez pour assurer un équilibre géographique. Donc, on a essayé de répartir les projets par région. Nous sommes en train de mettre en œuvre le projet d'accès à l'électricité solaire au Niger financé par la Banque Mondiale. Là, nous avons défini une liste exhaustive des indicateurs donc, qui doit servir effectivement d'élément d'appréciation de l'atteinte des objectifs de ce projet. La liste n'est pas exhaustive, mais entre autres, donc voilà les différents indicateurs, la définition des indicateurs, les unités de mesure, les valeurs de référence et les cibles. Par exemple, donc, on envisage dans la composante numéro 1 de ce projet qui consiste à développer un marché sur la chaîne des quais solaires, à diffuser des quais solaires, des solar home systems qui sont certifiés Latin Global. Et là, le nombre envisagé, c'est 100 000 en fin de projet, 100 000 qui doivent être ciblés. Les personnes ayant obtenu un accès à l'électricité solaire produite par les systèmes solaires autonomes. Là, c'est une mesure, donc, du nombre de personnes qui ont reçu des kits ou des lanternes solaires et des systèmes solaires à usage domestique dans le cadre du projet. Là, on cible 300 000. Le nombre d'entreprises d'activités solaires financées par les projets. Donc, là, c'est la mesure du nombre d'entreprises privées proposant des produits solaires dans le cadre du projet. Là, on envisage 10. La valeur de référence est 0, bien sûr. On envisage 10. Et le nombre d'agriculteurs acquéreurs des pompes solaires auprès d'entreprises d'énergie solaire financées par les projets, donc là, qui définit la mesure du nombre d'agriculteurs ayant accès à la technologie des pompes solaires pour l'irrigation dans le cadre du projet. Là, à l'horizon, donc, on envisage la diffusion de 1000 kits d'irrigation. Le nombre d'emplois créés, qui mesure le nombre de tous les emplois créés du début à la fin du projet. Donc, à l'horizon, c'est 1000 emplois qui sont envisagés. Ainsi de suite, donc, le volume de financement du projet à travers cette composante numéro 1, donc à une ligne de crédit qui a été mise à la disposition des banques commerciales et des institutions de microfinance pour créer une finance inclusive qui permettra aux entreprises solaires d'avoir accès au crédit et en même temps aussi aux utilisateurs finaux d'avoir accès au crédit pour pouvoir acquérir des kits solaires. Donc là, le volume de financement, qui est la mesure du volume total de financement octroyé, montant qui s'est cumulé aux entreprises d'énergie solaire, les commerçants d'électronique, les ménages et agriculteurs à travers les banques commerciales et les IMF, donc les Intermediate Finance Institutions. Et le montant total en dollars américains s'élève à 8 500 000. Un autre indicateur, c'est le nombre de ménages dotés d'un accès à l'électricité par le biais des mini-réseaux solaires. Et là, c'est la deuxième composante qui consiste à développer un marché des mini-réseaux solaires. Et là, donc, il mesure le nombre de ménages ayant reçu des nouveaux services d'électricité via les mini-réseaux solaires avec indication de la proportion des femmes comme chef de ménage. Ce qui est ciblé, donc, c'est 6 000 et le pourcentage, donc, contribue à 16 %. Un autre indicateur, c'est la production annuelle d'électricité provenant des énergies renouvelables, qui est une mesure en mégawatt-heure par an, qui mesure la production des installations d'énergie renouvelable solaire construites. Et là, les mégawatt-heure par an, donc, on envisage 3 300 mégawatt-heure par an de production d'électricité par les mini-réseaux. Autre indicateur, le nombre d'opérateurs. On a défini tellement d'indicateurs donc, par rapport au cadre logique du projet, parce qu'effectivement, il y a des objectifs qui ont été fixés. Par rapport à ça, sans pour autant être exhaustif, effectivement, on a énuméré tous ces indicateurs. Donc, y compris le nombre d'opérateurs privés gérant les mini-réseaux solaires dans les zones rurales. Là, c'est une mesure du nombre d'opérateurs privés opérant pour un mini-réseau avec indication de la proportion féminine des employés des opérateurs privés. Là, donc, les cibles 10 et 15 % de contribution. Les proportions de la femme, donc, constituent 15 % Et un autre indicateur, c'est le nouveau ménage bénéficiant d'un accès à l'électricité grâce à l'hybridation solaire des mini-réseaux diesel existants. Là, il s'agit d'une troisième composante qui consiste à hybrider les mini-réseaux solaires, les mini-réseaux thermiques de la centrale d'électricité, plutôt de la société d'électricité existante, et qui fonctionne vraiment à un coût d'élevé, très élevé. Et là, pour vraiment réduire le coût de fonctionnement, donc, on s'est lancé à hybrider ces centrales. Et cette mesure, donc, elle mesure le nombre de personnes ayant reçu des nouveaux services d'électricité via les mini-réseaux solaires opérés par la DGGLEC à travers l'hybridation, avec indication de la proportion des femmes comme chef de ménage. Donc, le nombre ciblé, c'est 7 500, et le pourcentage des femmes, donc, 16 %. Les ménages bénéficiant d'un accès prolongé à l'électricité grâce à l'hybridation solaire des mini-réseaux, toujours de la composante numéro 3, donc, qui est la mesure du nombre de personnes ayant reçu des services d'électricité améliorés, augmentation des aides d'approvisionnement, donc de 8 heures à 16 heures, et grâce à l'hybridation solaire des mini-réseaux existants. Et là, on cible à peu près 3 000. Et le pourcentage des femmes, donc, sera à 16 %. Autre indicateur, c'est la production annuelle d'électricité provenant des énergies renouvelables. Ce sont les indicateurs, que nous avons définis. Tels sont les indicateurs que nous avons définis.
Les indicateurs sont très intéressants, mais on doit terminer à 11h et puis on devrait aussi garder un peu de temps pour discuter.
D'accord, pas de problème, donc il y a tellement d'indicateurs. Mais ce qu'il faut retenir ici, ce sont des valeurs cibles que nous définissons par rapport au cadre logique du projet, et qui doivent nécessairement nécessiter la collecte des données au préalable pour établir des situations de référence et périodiquement, maintenant, un suivi et évaluation. Nous avons mis en place donc un système de suivi et évaluation, pour le moment pas trop compliqué, avec Excel, donc c'est la plateforme Excel, c'est avec ça que nos agents de suivi et évaluation travaillent. Nous pensons donc avec cela, nous serons à mesure d'évaluer les impacts de tous les projets qui nous sont en train d'apporter au Niger. Pour ce genre de solutions, la diffusion des cuves solaires individuelles et les mini-réseaux, c'est à peu près 29 mégawatts de puissance qui sera installée à l'horizon 2021. Je pense que je dois m'arrêter ici.
Merci beaucoup. Donc avant d'ouvrir la discussion, on a encore une intervention de Anjali Shankar de IED.
Merci. Merci. Merci beaucoup.
Elle est là.
Il faut que je me lève.
Peut-être, ouais. C'est pas nécessaire.
Eh oui, bonjour. Bon, c'est un plaisir d'être ici. Donc, je me présente, Angélie Schenker du bureau d'études IED et également de la structure d'investissement IED Invest. Et je fais également partie du comité scientifique et technique du Fonds français pour l'environnement mondial. Donc, c'est un vrai plaisir d'être ici à deux titres. D'abord parce que IED a participé à la création du Club ER tout à l'origine, donc ça fait très plaisir de revoir quelques têtes ici, et aussi étant donné mon implication au niveau du comité scientifique et technique du CST, donc merci beaucoup pour cette invitation à ce titre-là. Je vais donc essayer de faire une intervention au titre un petit peu de ces deux casquettes, c'est-à-dire du secteur privé, d'abord ce qu'on peut dire et ce qu'on a appris au titre de notre travail de bureau d'études, et ensuite ce que nous vivons dans la réalité en tant qu'opérateurs privés et de ce que nous pouvons, réussissons ou ne réussissons pas à faire par rapport à ces actions d'impact. Donc en tant que bureau d'études, que ce soit en termes d'électrification par réseau ou mini-réseau, donc on travaille dans ce secteur d'électrification rurale depuis 1985 par extension du réseau ou par mini-réseau, on a eu travaillé dans le temps en Mauritanie d'ailleurs beaucoup, il est clair, comme on l'a dit, que l'impact de l'électrification est considéré comme étant un objectif sous-jacent, c'est-à-dire tout le monde s'accorde à dire que l'électrification est une condition nécessaire sans pour autant réussir véritablement à mettre en place des indicateurs de baseline ni des indicateurs pour en mesurer les effets. Mais ce qu'on constate, par contre, c'est que il y a un intérêt de plus en plus important, comme a été décrit par mon voisin tout à l'heure, pour pouvoir véritablement mesurer les résultats. Alors, je vais peut-être, à titre scientifique, faire un petit exercice de sémantique, qui est la différence entre les résultats et les impacts. Que cherche-t-on à mesurer? Est-ce qu'on cherche à mesurer les résultats ou les impacts, ce qui est une problématique temporel et de contenu qui est quand même relativement différente. Donc pour ce qui concerne la mesure des résultats, nous on trouve, bon, depuis les 25 ans qu'on y travaille, qu'il y a vraiment un énorme progrès, c'est-à-dire qu'on cherche, les bailleurs mettent des moyens pour établir des baselines et commencent, je dirais pas que c'est toujours très facile, mais commencent à en effet donner des moyens pour pouvoir faire des mesures à mi-parcours et à fin de projet, avec des batteries d'indicateurs qui sont assez faciles à mesurer, comme on vient de le décrire ici, qui sont peut-être nombreux, mais qui sont en tous les cas tout à fait mesurables. Et je dirais qu'avec l'évolution des technologies, on n'est plus obligé d'envoyer des enquêteurs avec des papiers qui cochent à la main et avec tout un exercice de suivi. Donc c'est vrai que les outils informatiques de tablettes, de téléphones portables ont vraiment énormément facilité ce travail-là et le rendent aussi beaucoup plus cost efficient. Et on se rend compte que des enquêteurs sur le terrain, des agents des compagnies d'électricité avec lesquelles on travaille, des agents des agences d'électrification rurale sont tout à fait à même de prendre le relais. Nous, on a un objectif, enfin on a un travail un peu méthodologique d'encadrement, mais tout le reste se fait de manière relativement facile avec un renvoi de données sur le cloud qui nous permet de faire des analyses relativement facilement. Donc ici, encore une fois, on est en train de parler de résultats et je pense qu'on a largement bien décrit le type d'indicateurs dont on peut parler. Maintenant, en tant que bureau d'études, on a toujours cherché, dans la conception des projets, de dire que si on veut maximiser l'impact, on dit par exemple, en effet, on voudrait bien avoir tant de pompes pour l'alimentation en eau potable. On voudrait avoir tant d'écoles électrifiées. On voudrait avoir des usages productifs. Mais pour que cela puisse en vérité avoir lieu et que ces activités se mettent en place, il importe de mettre en place ce qu'on a pendant très longtemps appelé des mesures d'accompagnement pour pouvoir véritablement, dans une dynamique de temps, avoir cet effet d'impact sur le plus long terme. Donc là, je dirais qu'on reste aujourd'hui dans les projets d'électricité, dans quelque chose d'un petit peu plus compliqué, parce que il faut dans la baseline définir une priorité, ou bien définir un concept, comme le projet d'électrification présenté par mon ami Hervé Gouillet tout à l'heure. Il faut mettre en place les mécanismes de financement qui sont bien différents du financement d'un kit solaire ou de l'extension d'un réseau ou d'une connexion, et qui souvent exigent aussi des acteurs différents. Ce sont des gens qui savent travailler avec des communautés locales dans la construction d'acteurs. Et je dirais, pour finir, puisqu'on est dans la question de la mesure de l'impact, on est aussi dans des dynamiques de temps assez différentes. Je dirais qu'une entreprise privée qui a un mandat pour faire une installation de kit solaire ou d'extension de réseau, eh bien, elle va être en effet payée et elle aura terminé son travail dès lors qu'elle aura réalisé X nombre de connexions. Mais néanmoins, l'impact, au sens d'impact, qui est quel a été l'impact transformationnel sur les revenus, sur le rôle de la femme, sur le développement d'un marché, c'est quelque chose qui aura lieu quelques années plus tard. Et aujourd'hui, on est encore vraiment au balbutiement de la prise en compte de ces problématiques, en tous les cas dans la structuration des instruments de financement tels que nous, on peut les voir, et dans la structuration des appels d'offres auxquels on peut répondre. Quand il y a des appels à projets ou des appels à propositions, on peut en effet, si le temps du don le permet, intégrer ce genre de choses, mais on est dans cette très grande difficulté sur laquelle Hervé a conclu tout à l'heure, qui est qui va payer ça quand on cherche à mesurer quelque chose qui aura lieu 3 ans, 4 ans, 5 ans après la fin du projet d'électrification décentralisée en tant que tel. Voilà sur ce point-là. Ensuite, quelques mots un peu sur notre expérience en tant qu'IED Invest, où je dirais, bon, depuis 85 on travaille en tant que bureau d'études. En 2011 on s'est dit c'est bien beau d'être bureau d'études, mais essayons de le faire nous-mêmes, et voyons un peu ce qu'on peut en dire. Donc je vais vous citer un exemple. On a au Cambodge fait l'électrification d'une zone, d'un village qui était décentralisé, dont toutes les autorités nationales nous ont dit mordicus qu'elle resterait décentralisée pour les 10 années à venir, mais c'était un chef-lieu de district. Donc on a substitué du diesel, où les gens payaient 1 $ du kilowattheure pour 6 heures par jour, avec une utilisation de la biomasse, service 24 heures sur 24 et tarif à 30 centimes du kilowattheure. C'était une capitale de district, donc il y avait déjà un certain nombre de choses comme un marché, une banque et un tout petit centre de santé. Arriver l'électricité à 1/3 du prix et 24 heures sur 24, ça a été le catalyseur qui manquait. Et ce village a complètement explosé, à tel point que notre centrale s'est retrouvée au centre du village, qu'on a dû le déménager. En fait, ça a été tout un bins. Mais aussi, comme la demande a beaucoup augmenté, parce que le projet a eu un succès, eh bien, le réseau est arrivé, 2 ans après. Et là, qu'est-ce que vous voulez dire? Je dirais que le projet a eu un succès énorme et il y a un impact transformationnel. Et là, dans ce cas spécifique, c'est vrai que c'est l'électricité qui a eu cet impact transformationnel, mais c'était parce qu'il y avait beaucoup d'autres facteurs qui existaient déjà. Donc vraiment, le mesurer, et là, c'est l'électricité qui a été le catalysateur, mais tout seul, ça n'aurait pas donné cet impact du tout. Maintenant, quelques remarques sur ce que nous vivons aujourd'hui dans le développement de projets d'électrification décentralisée. Alors, aussi bien à titre de bureau d'études, parce que nous pilotons entre autres un programme au Kenya pour compte de l'AFD, cofinancé par l'Union européenne, la coopération anglaise et l'AFD, qui vise à apporter un certain pourcentage de subventions à des projets d'électrification décentralisée et également ce que nous vivons en tant que développeurs où nous travaillons sur beaucoup de financements différents, que ce soit des financements finlandais, que ce soit des financements américains ou que ce soit des financements français. Ce que je voudrais dire, c'est que déjà quand on parle de l'instrument du don, Alors, il y a des questions d'éligibilité, c'est-à-dire qu'en termes d'impact, on ne veut pas que vous ayez un impact négatif sur l'environnement, on veut que, effectivement, tout ce qui concerne les conditions de travail, etc., soit respecté, et on veut qu'il y ait des effets globalement positifs. Donc ça, je dirais, c'est à la limite les conditions dans la description du projet. Mais ensuite, un critère fondamental de l'évaluation du projet, c'est le pourcentage de dons que vous demandez. Donc plus le pourcentage de dons que vous demandez sera faible, mieux vous serez noté. Or, tout ce dont on a parlé lié à l'impact, c'est-à-dire aider à mettre en place un centre de santé, faire de la formation, qui est tout à fait fondamentale pour faire émerger les opérateurs locaux, ben vous mettez un gros budget là-dessus, et ben votre pourcentage de dons, il monte, voilà, et vous avez moins de chances de vous faire sélectionner. Donc je dirais que par construction, vous n'allez pas pouvoir intégrer l'impact à plus long terme. Et c'est quelque chose que nous, on vit quand on monte des projets, cette espèce d'arbitrage un petit peu plus souple. Et je dirais que aujourd'hui, en plus, quand on parle maintenant, ok, vous avez obtenu en tant que développeur privé, par exemple, 30% du don, vous mettez 30% de vos fonds propres, il vous reste à trouver encore le reste en prêt. Admettons que vous arriviez à trouver un prêteur pour un petit projet, ce qui est déjà une prouesse en soi, puisque c'est compliqué. On va vous poser tout un tas de questions. On va vous demander de mettre en place le fameux PGESS, plan de gestion environnementale et sociale, qui peut être une usine à gaz phénoménale et qui a un coût qui est loin d'être négligeable. Ce coût-là, bien souvent, on vous le subventionne pas. Donc ce coût, vous êtes obligé de le porter sur votre prêt. Et en plus, quand on en arrive à la fin de la négociation, moi je vais dire, mais écoutez, moi j'aimerais bien faire un peu plus de formation, la réglementation dans le pays implique ça en termes de normes environnementales, mais on voudrait faire un petit peu mieux. Donc s'il vous plaît, je sais bien que si je fais mon bilan machin, on peut peut-être vous rembourser à 8 ans. Mais donnez-moi, s'il vous plaît, 12 pour que je puisse faire tout le reste. Et ça, ce n'est pas aujourd'hui un discours qui est accepté par les financiers. Malgré tout, on va chercher à tirer vos cash flows au maximum pour diminuer toujours le risque du financier. Et on est quand même toujours, en tant que critère, dans la minimisation du risque du financier, sans pondérer par est-ce que je peux assouplir mes conditions de financement pour avoir de l'impact. Je dirais que ça, c'est quelque chose qui reste pour moi encore à venir. J'espère que ça viendra et je n'en doute pas, mais on n'en est pas encore tout à fait là aujourd'hui. Je peux vous dire dans les négociations de marchands de tapis qu'on peut avoir avec les financiers sur plein de choses tout à fait différentes. Cela étant dit, bon, nous, on n'est pas ONG, mais on attache énormément d'importance à cet impact, d'autant plus que nous, on investit et on est au pair, donc on est là pour rester. Donc, si on est là pour rester, c'est un peu le même cas que SF, on sait très bien que la durabilité du projet ne sera là que si on a un impact. Et donc là, par ailleurs, on a des activités, enfin des financements qui viennent de nos fonds RSE, donc responsabilité sociale d'entreprise, où en tant que groupe, on a des fonds RSE, où on fait des choses comme de la formation pour nos employés sur place, un fonds revolving, des activités de santé, aider l'orphelinat à côté, etc. Mais tout ça, c'est nos activités de RSE. Et pour les financer, on va chercher en fait des petits financements de fondations d'entreprise pour faire ces activités à côté et en partenariat avec des ONG locales. Donc, vous voyez, ça peut se faire, mais aujourd'hui, c'est quand même un sacré effort et, j'allais dire, une sacrée usine à gaz, parce qu'il faut se battre pour son financement principal, qui est le projet d'électricité, et pour tout ce qui est impact, pour nous, en tous les cas, dans notre vécu aujourd'hui, on doit chercher d'autres financements à côté. Ce n'est pas inclus encore dans le financement principal. Mais Simplement pour conclure là-dessus, pour moi cette question d'impact pose quand même une question qui est compliquée, parce que ce que sait faire un acteur privé du secteur électrique, c'est de l'électricité. C'est-à-dire que déjà s'il sait tirer des câbles proprement, en les optimisant, en ne faisant pas des surcoûts, en faisant des coûts de connexion, machin, en ayant un service après-vente d'équipe solaire qui tient la route, c'est déjà très très bien. Et demander à ce même acteur de pouvoir faire tout ce qui va à côté par rapport à l'impact, c'est peut-être un peu compliqué. Et ça pose pour moi toute la question de ce qu'on a eu appelé l'intersectorialité, qui est de toute façon la seule manière d'avancer dans le développement. Et pour conclure, à ce titre, j'ai trouvé le travail qu'on a eu fait avec l'ONE il y a quelques années très intéressante, puisque une fois qu'ils ont eu terminé le PERG, l'ONE, avec une combinaison d'électrification solaire et d'électrification de réseau, ils ont cherché en fait à intégrer l'électrification rurale dans les activités de structures de développement rural localisées, pour voir comment, dans les zones où l'électricité arrivait, on pouvait en maximiser l'effet en intégrant justement des investissements intersectoriels. Mais c'était ces agences donc de développement rural qui en venaient à prendre le relais, en fait, par rapport à cette histoire d'impact à long terme. Et ça ne devient pas du coup, ça devient un peu lourd, je pense, que de dire que ça doit rester le mandat des acteurs de l'électricité en tant que tel. Merci beaucoup.
Bonjour à tous. Vous m'entendez? Oui, c'est mieux. J'essaie d'être le plus succinct possible pour laisser un peu de temps à une séance d'échange à la fin. Quelques mots quand même pour vous présenter Néoté Capital. Nous sommes une entreprise qui a pour but de financer la transition énergétique vers de l'énergie zéro émission et vers de la mobilité électrique. Donc pour ce faire, nous avons créé deux plateformes d'investissement, l'une dédiée à la mobilité électrique, l'autre dédiée à l'énergie décentralisée en Afrique. Moi, je m'occupe de diriger la plateforme dédiée à l'énergie décentralisée en Afrique. Donc on investit dans différents types de projets, tous off-grid, solar home system, mini-réseau, projets industriels dans des zones non desservies par le réseau ou là où le réseau est de mauvaise qualité. Quelques mots sur nos actionnaires, EDF, Mitsubishi et Meridiam. Donc je pense que vous avez compris qu'on n'est pas ce qu'on appelle un fonds d'impact. Aujourd'hui, notre premier critère d'évaluation d'un projet, ça va être la rentabilité. On a déjà procédé à deux investissements, un au Nigeria, nous avons construit un mini-réseau dans le nord du pays. On a électrifié un marché en remplacement des générateurs, on a installé des panneaux solaires, des batteries qui fournissent aujourd'hui à peu près 8000 commerçants en électricité propre. On est en train de closer un deuxième deal avec Zola Electric en Côte d'Ivoire, où on les finance pour les aider à accélérer le déploiement de leur kit solaire. Et on a un pipeline assez fourni de projets similaires. Donc comme je vous l'ai dit, aujourd'hui notre premier critère d'évaluation, ça va être la viabilité du modèle, la rentabilité, qui sont aujourd'hui les deux critères demandés par nos actionnaires vu qu'on investit en fonds propres. Sur un projet de mini-grid, par exemple, on va regarder quel est le potentiel de marché, combien est-ce que de connexions on peut espérer atteindre, quel va être le revenu moyen par usager. Et sur la base de cette analyse rapide, on va prendre notre décision d'investissement. Donc, si je m'arrête aux mini-grids en particulier, qui sont selon nous aujourd'hui les projets les plus compliqués à financer, le problème, je le répète, reste la rentabilité, et aujourd'hui on a besoin de travailler de concert avec les autorités locales et les bailleurs de fonds internationaux type AFD, Banque africaine de développement, Banque mondiale. À titre d'exemple, aujourd'hui, si on veut financer un mini-réseau de 10 millions d'euros, qui représente à peu près 5000 connexions, il va falloir un niveau de subvention de l'ordre de 50%. Sans ce niveau de subvention de 50%, on est sur des projets non économiquement viables et sur lesquels des investisseurs privés type Nocté Capital ne pourront pas se positionner. Même avec 50% de subvention, il va falloir un travail de cadrage très précis pour là encore rentrer dans des objectifs de rentabilité, donc être capable rapidement de sizer le réseau le mieux possible, être capable de développer les usages productifs qui vont être les plus énergivores, être capable de comprendre quelles sont les habitudes de consommation des clients de ce mini-réseau, est-ce qu'on a plutôt affaire à des foyers, est-ce qu'on a plutôt affaire à des donc qui vont consommer le matin et le soir, est-ce qu'on a plutôt affaire à des professionnels qui vont consommer pendant la journée. Donc ça, c'est un travail très important à faire en amont. Pour ça, on peut s'appuyer sur des partenaires locaux de qualité qui sont capables d'évaluer le potentiel d'un mini-réseau, qui sont capables de développer des solutions en conteneurs qui vont nous permettre de relocaliser nos moyens de production ailleurs si on s'aperçoit qu'on a visé un peu trop haut et que la consommation n'est pas au rendez-vous. Donc ça, c'est sur la partie pré-investissement. On va aussi s'intéresser à l'impact environnemental et social, est-ce qu'on va détruire de la faune, de la flore pour installer notre mini-réseau, est-ce qu'on va être obligé de déplacer des populations. Bien évidemment, on prend en compte toutes les considérations techniques et sécuritaires, donc pour ça on sélectionne les meilleurs fournisseurs de matériaux pour s'assurer qu'on va pas avoir un mini-réseau dangereux pour les populations qui l'utilisent. Et ensuite, sur la partie post-investissement, donc là, on est capable de collectionner tout un tas de données qui vont nous permettre d'analyser la consommation, qui vont nous permettre d'adapter notre offre aux habitudes de consommation et qui vont nous permettre, dans un deuxième temps, mais Nocté étant une société jeune, on n'a pas encore eu le temps de se pencher sur cette étude, de comprendre quel est l'impact sur l'utilisation que les gens font de l'électricité. Est-ce qu'ils vont plutôt s'en servir pour charger leur téléphone portable? Est-ce qu'ils vont plutôt regarder la télé? Est-ce qu'ils vont essayer d'acheter des équipements de cuisine électrique plutôt que de cuisiner au gaz? Donc voilà, sur ces points, on va travailler avec des centres d'études à qui on va fournir ces données gracieusement et qui pourront ensuite les exploiter pour des rapports d'impact.
Merci beaucoup. Ok, bon, je pense que je vais ouvrir la parole à l'audience pour poser des questions à nos différents panélistes qui vont intervenir et puis répondre aux différentes réflexions que vous êtes faites durant les différentes prises de parole.
Bonjour. Robinson Lazraki, ancien de Total, l'accès à l'énergie. J'ai une question pour Anjali et Frédéric, vous pouvez peut-être y répondre de manière un peu différente. Est-ce que vous utilisez ou vous avez des partenaires en blended finance pour justement, pour vous Anjali, peut-être réduire le risque financier et pour vous Frédéric, au contraire, pour pouvoir venir vous joindre à un panel d'investisseurs qui a des objectifs de rentabilité inférieurs aux vôtres et permettre d'investir conjointement dans des projets plus risqués?
Peut-être prendre 2-3 questions avant.
Bonjour. Alberto Dotto, je travaille pour Expertise France, une agence de coopération technique française. Comme c'est le panel dédié au point de vue des techniciens, moi je suis chargé de projet d'un projet en Côte d'Ivoire, d'électrification rurale décentralisée, d'efficacité énergétique, dans lesquels on va électrifier à peu près une trentaine de villages sur 10 000 personnes. Moi, je voulais juste partager un point de vue qui, dans notre projet, est vraiment essentiel dans la relation qu'on a eue avec les contreparties nationales ivoiriennes, c'est le concept des services publics. Nous, on on a une approche dans laquelle, même quand on va sur des systèmes des SAH, donc des systèmes individuels, on veut que l'investissement ne soit pas porté par l'usager. On veut que l'investissement soit porté par l'agence d'électrification nationale ou alors par l'opérateur, mais que l'usager puisse demander éventuellement, s'il veut redoubler sa puissance, que ce soit pas à lui d'investir sur les panneaux solaires, mais que lui puisse payer en facture comme les usagers connectés au réseau le font. Et c'est là, on l'a vu, on le voit en Côte d'Ivoire, il y a des cas où des investisseurs comme votre société, Frédéric, choisissent des zones très spécifiques où ils savent que les usagers peuvent payer, où ils ont de la liquidité. Mais je pense que ce qui est très important pour les États africains, c'est que je pense qu'il est très important d'avoir des stratégies où le concept des biens publics d'électricité est mis en avant. Parce que sinon, on va se retrouver avec des localités rurales isolées qui n'ont pas de liquidité et qui vont ne pas avoir accès à l'électricité. Donc, nous, on va dans ce sens-là. Et j'ai fini par la question. Je me demandais si dans le projet d'UED que vous avez partagé, si une fois que les réseaux sont arrivés 2 ans après, si votre centrale a pu être connectée au réseau, parce que nous, c'est une question qui est assez importante dans notre cas.
Merci. Moi, j'ai une question d'ordre général et j'ai une question un peu plus précise par rapport à ces études d'impact, parce que je m'y attendais à avoir plus clair sur la méthodologie, parce que, comme vous le savez, ce genre d'études, c'est vrai, c'est facile d'attribuer un effet, je dirais, à la présence au nom de l'électrification, mais la manière, comment on peut dire que une transformation dans un village est attribuée à l'électrification. Est-ce que c'est le seul équipement qui entraîne cette transformation? Je prends un cas. On ne peut pas dire que l'électrification améliore les conditions de scolarisation, améliore les conditions de soins sans la présence de l'école, sans la présence du dispensaire. Donc, il ne faut pas nier, je dirais, l'apport d'autres équipements de base existants. Alors, moi, j'aimerais avoir plus clair sur ce point. Et un autre élément par rapport, à l'émigration, à l'exode rural, parce que c'est l'un des objectifs recherchés à travers l'électrification. Je ne sais pas, est-ce que c'est traité à travers les différents travaux réalisés? Est-ce que l'électrification décentralisée ou par extension de réseau a entraîné, je dirais, de stopper un peu l'exode dans les villages électrifiés et comment? Et un troisième point concernant les aspects négatifs de l'électrification. Bien sûr, on peut parler des volets positifs, des impacts positifs, mais il y a aussi des impacts négatifs. Je ne sais pas comment c'est traité, par exemple, la problématique de rejet des batteries usées, l'impact et les plombes qu'on rejette dans les sols. Est-ce que les opérateurs privés qui ont cette responsabilité de récupération, comment c'est traité toutes ces problématiques? Et en fin de compte, il y a aussi l'éclairage public, parce qu'on ne peut pas, bien sûr, on électrifie les foyers, mais vous imaginez l'éclairage public, est-ce que ça fait partie aussi des offres que vous faites pour l'électrification de ces villages? Merci.
Merci beaucoup. Vous allez peut-être répondre à ces trois questions. Et sur une des questions, au moins sur l'impact, je vois que Jean-Claude a levé la main. J'imagine que c'est probablement pour intervenir sur ça plutôt que de poser une question. Bon. Je vous laisse peut-être répondre. Et ensuite, j'ai déjà vu quatre autres questions. Donc, on continuera. Kenneth, on a jusqu'à 11h15. Hein,
Merci. Donc, merci beaucoup pour ces questions. Alors, d'abord sur la question de blended finance. Bon, on aimerait bien trouver un acteur qui nous propose ce blended finance directement, mais disons que nous-mêmes, on est obligés de le faire. C'est-à-dire que les projets, on n'arrive pas à les faire fonctionner sur un financement à des conditions commerciales simples. Donc on est, nous, en général, la manière dont on procède, c'est on fait le calcul à l'envers au niveau de la faisabilité. C'est-à-dire on se dit, étant donné les revenus attendus, quelle est la part maximale qui peut être portée en fonds propres et sur des financements commerciaux, et donc quelle est la part de subvention dont on a besoin. Sincèrement, aujourd'hui, il n'est pas hyper compliqué de trouver la part de subvention, parce qu'il y a pas mal de fonds de subvention qui sont très contents d'apporter une contribution à des acteurs privés, qui prennent un risque par eux-mêmes parce qu'ils mettent leurs propres fonds propres et qui vont derrière aller chercher un crédit. Donc trouver ça, je dirais que ce n'est pas très compliqué. On va faire l'hypothèse qu'on a les fonds propres. Ce qui devient le plus compliqué dans les projets décentralisés, c'est de trouver la partie dette. Donc soit vous arrivez à tout financer en fonds propres, le solde, soit vous arrivez à trouver une partie dette. La partie dette pose le problème de savoir est-ce que vous êtes en financement de projet ou en financement sur bilan, donc en financement commercial. Financement commercial, sur les projets décentralisés, en général, les porteurs de projets sont des petits acteurs, des nouveaux. Quand ils sont dans les pays, ils n'ont pas de track record, ils n'ont pas les garanties. Donc ça devient quelque chose de très compliqué. Bien souvent, quand on voit des grandes entreprises s'intéresser à ce secteur, elles ne vont vraiment s'y intéresser que s'il y a déjà un cluster, donc un volume suffisant qui le justifie. Donc c'est quand même quelque chose de relativement compliqué. Et sur le project finance, eh bien les coûts de transaction pour les acteurs qui font ce genre de choses sont quand même souvent trop élevés pour des petits. Alors il y a les bailleurs en sont conscients et sont en train de prendre des initiatives par rapport à ça. Entre autres, tous les DFI européens ont mobilisé la Commission européenne pour mettre en place cet instrument qui s'appelle Electrify et qui cherche à s'attaquer à cette problématique. Nous travaillons avec eux. On peut dire qu'il y a vraiment du progrès parce que déjà, ils sont prêts à faire du financement de projet sur une transaction d'1 million d'euros ou 2 millions d'euros. C'est déjà remarquable en soi. N'empêche que le PGESS qui a fait sourire Harry tout à l'heure, ils en demandent un sacré derrière. Hein. Et donc, là, Hervé disait que l'évaluation, ça coûte 10% du projet. Bon, quand on en... Je calculerai un jour tout ce que ça coûte au projet et en pourcentage du projet que de mettre en place tout ça. Donc le blended finance, oui, mais nous, on n'a pas trouvé une seule porte d'entrée qui nous apporte la solution intégrale aujourd'hui, en tous les cas. Si vous avez des pistes, on est tout à fait preneurs, en tout cas par rapport à ça. Sur la question de quand est-ce qu'on se connecte au réseau. Je dirais que dans le pays où ça nous est arrivé, on est dans un cadre réglementaire qui permet de travailler. C'est-à-dire que tout acteur, et ça rejoint la question de l'utilité publique aussi, c'est-à-dire toute structure privée qui va soit faire de la production, de la distribution ou du transport, doit d'abord avoir une licence du régulateur. Et cette licence du régulateur, de même que l'autorisation du ministère, impose, entre guillemets, des obligations de service public. Donc, y a des obligations de qualité de service, si vous êtes en distribution, de développement des branchements, etc. Donc, la licence devient un genre de concession où on impose, même si vous n'êtes que sur de la production, des obligations, genre obligations de service public. Et du coup, même si dans le contrat de production décentralisée au départ, on n'avait pas anticipé, très honnêtement, que le réseau arrive aussi rapidement que ça, il n'empêche que le régulateur a été extrêmement réglo en disant « Vous avez déjà votre investissement, donc on va négocier ensemble un tarif de rachat parce que nous, ce qu'on observe de plus en plus dans les géographies où on travaille, c'est que on commence par le décentralisé tout à fait isolé ». Si c'est un succès, la demande augmente, le réseau arrive. Mais ce qu'on constate de plus en plus, c'est que avec l'extension du réseau qui avance au grand galop en Afrique aussi, le problème de la qualité de service en bout de ligne est une vraie problématique, que ce soit à cause de la saisonnalité, des extensions de réseau, des demandes qui augmentent. Donc l'injection en bout de ligne devient quelque chose qui, dans beaucoup de pays, est de plus en plus prisé par les compagnies d'électricité. Donc, en vertu de cet argument-là, la compagnie d'électricité a été prête à négocier un PPA avec nous sur cet argument, sur cette question, en fait, que on était en décentralisé, donc forcément en bout de ligne, et que faire de l'injection améliorer la qualité de service. Donc sur cet argument-là, on a réussi à trouver quelque chose. Mais en tous les cas, nous, la leçon qu'on en tire, c'est que quand on fait du décentralisé, on essaye d'intégrer quelques clauses. Et si le réseau devait arriver, que se passerait-il? Ça, c'est clair. Par rapport à la question de l'exode rural et des effets négatifs, bon, moi, de ce que j'ai vu, en tous les cas, sur tous les projets solaires et en tous les cas les impacts environnementaux négatifs, c'est quand même aujourd'hui assez largement pris en compte par les bailleurs. Je ne sais pas ce que vous en pensez au Niger sur tous ces projets solaires. On demande quand même à tous les acteurs aujourd'hui qui rentrent dans le jeu de proposer une action pour tenir compte des impacts environnementaux négatifs. Et si vous faites, comme c'est notre cas, des projets de biomasse, on vous demande de faire une étude d'impact environnemental pour voir comment vous tenez compte des rejets solides, des rejets gazeux et éventuellement de l'eau dont vous aurez à vous servir en termes de refroidissement. Ça, j'ai l'impression quand même qu'aujourd'hui, c'est assez bien pris en compte dans les projets. Par rapport à l'exode rural, je dirais que pour nous, la philosophie de tous ces projets décentralisés, c'est d'essayer de créer des pôles de développement qui évitent que les populations rurales n'aient pas d'autre choix que d'aller vers la capitale ou les 2-3 villes principales. C'est bien là, pour moi, aujourd'hui, le cœur de la problématique. Et quand ce qu'on a vécu dans tous les centres secondaires qu'on électrifie aujourd'hui, c'est que le centre secondaire va grandir en population parce que les populations qui sont dans les hameaux à côté, dès lors que le projet a un impact positif, c'est-à-dire qu'il y a l'école, la santé, etc., qui vient avec, eh bien, les populations dans les petits hameaux se vident et viennent plutôt vers cette zone d'attraction, je dirais, en quelque sorte. Donc, après, en termes de méthodologie, arriver à vraiment dire quelle est la part, en termes de mesure d'impact, quel est le poids du facteur explicatif électrification à comparer avec le facteur explicatif, il y a un centre de santé intéressant, il y a maintenant une école secondaire. J'avoue que je n'ai pas d'idée de comment réussir à mettre une pondération. Par contre, ce qui est clair, c'est que l'un ne va pas sans l'autre. Voilà. Mais méthodologiquement, pondérer, c'est une
question. Par rapport à la méthodologie, je pense que la question d'évaluation d'impact environnemental, c'est...
Non, vas-y, parle.
Ok, c'est une procédure qui doit être continue et soutenue de l'État. Parce qu'il y a des impacts qui ne sont pas scientifiquement, ce sont des résultats qu'on n'a pas évalués. Par exemple, quand vous parlez de rentabilité sociale, vous créez un centre de récréation, où presque les jeunes se retrouvent dans la soirée, ils ont accès à la télévision, différentes chaînes. Ça peut changer leur comportement, leur façon de voir les choses, mais c'est un impact qui ne peut pas être évalué, on ne peut pas les mesurer en tant que tel. Donc c'est pour dire que, pour ce qui est des méthodologies, dès la planification des projets, donc dans la première année de la mise en œuvre du projet, il faudrait établir une situation de référence à travers les collectes de données. Donc des enquêtes socio-économiques doivent être établies. Et maintenant, il y a des indicateurs clés à court terme, moyen et long terme qui doivent être établis. Et un tableau bien renseigné et qu'il a aussi des évaluations rétro-prospectives qui doivent être établies pour voir si vraiment les objectifs qui ont été fixés et les résultats sont atteints. Donc ça, c'est quelques années après la mise en œuvre du projet et c'est un suivi qui devrait assurer cela.
On peut parler avec celui-là, mais deux, trois éléments de réponse. Le premier sur l'éclairage public. Pour nous, l'éclairage public, ça fait clairement partie des services collectifs. Quand on parle de services collectifs, on pense souvent école, centre de santé, mairie. L'éclairage public, ça en fait partie. Moi, je me souviens d'une discussion il n'y a pas très longtemps avec l'association des maires du Mali. On leur demandait quelles étaient leurs priorités. C'était sur des maires du nord et centre du Mali. Quelles étaient leurs priorités en termes d'accès à l'électricité? Est-ce qu'ils voulaient qu'on intervienne plutôt sur justement leurs mairies, leurs centres de santé ou leurs écoles? Ils disaient non. Nous, notre priorité en tant que maire, c'est l'éclairage public pour ramener ou essayer de ramener de la sécurité à l'intérieur de la ville. Ça sert à rien d'éclairer le centre de santé si la nuit on peut pas y aller parce qu'il n'y a pas d'éclairage public. Donc ça, c'est quelque chose qui est clairement intégré dans cette notion large de service collectif, avec une difficulté. C'est c'est encore plus difficile de faire payer l'usager d'un lampadaire solaire ou d'un lampadaire raccordé au réseau que un autre consommateur d'un service énergétique, parce que on va pas lui ponctionner quelque chose à chaque fois que quelqu'un passe sous un lampadaire. Donc il y a une vraie difficulté économique à la solvabilité du lampadaire. Sur les aspects négatifs, on pense souvent aux batteries. Je pense que c'est quelque chose qui est de plus en plus pris en compte dans les projets d'électrification rurale. Petite remarque quand même, c'est une préoccupation qu'on exige des installations solaires et qu'on néglige un peu beaucoup sur le parc de voitures, parce que les filières de recyclage des batteries de voitures sont largement plus nombreuses que les batteries aujourd'hui de centrales solaires, et faudrait pas exiger mettre en préalable à l'extension des mini réseaux des SHS le recyclage des batteries, alors qu'on n'a jamais mis ce préalable à l'extension du parc de voitures. Ça veut pas dire qu'il faut pas le faire, mais faudrait essayer aussi de le faire pour le parc de véhicules, parce que c'est quand même le problème est autrement plus important à l'heure actuelle sur le parc de véhicules que sur le parc solaire. Donc il y a les deux à voir en même temps. Sur les aspects négatifs, il y a d'autres aspects. C'est l'usage en lui-même. Moi, je me souviens d'un village au Laos où l'impact négatif de l'électricité, c'était les jeunes qui faisaient du karaoké la nuit jusqu'à pas d'heure et qui embêtaient tout le monde.
Rapidement réagir par rapport à la question de l'évaluation, et après je vais passer la parole à ma collègue Karen qui va davantage élaborer sur ce que fait l'AFD, et d'autant plus sur la question du financement qui semble être aussi quand même le nœud de la question de l'évaluation. On se rend de plus en plus compte que l'évaluation semble être un bien public pour lequel personne n'est presque prêt à payer. Les personnes qui vont bénéficier du projet d'électrification dans le pays n'ont peut-être pas suffisamment d'incitation pour ajouter dans l'enveloppe de prêt nécessaire pour faire les activités les frais de l'évaluation. Ils n'ont pas à payer pour cette évaluation. Quand bien même, le fait d'avoir de l'information sur l'impact du projet peut améliorer les projets futurs et permettre d'améliorer ce qu'on sait des impacts de l'électrification. Du côté du bailleur, d'un bailleur tel que l'AFD, il y a un besoin très important d'apprendre de l'impact des projets qui ont déjà été financés afin de pouvoir améliorer les projets futurs qui vont être faits. Et l'AFD a une politique d'évaluation qui me semble être assez intelligente par rapport à prioriser quel projet évaluer et comment l'évaluer, de sorte à pouvoir créer une information qui n'est pas trop chère, mais une formation qui peut vraiment servir à des fins d'apprentissage. Sur la question de l'attribution, je pense qu'il y a un gros amalgame, en fait. Tous les projets d'électrification ne se valent pas et n'essaient pas d'atteindre les mêmes résultats ni les mêmes impacts. Et ce qu'on essaie de faire quand même à l'AFD, à chaque fois qu'il y a des projets qui remontent, c'est de clarifier la logique d'intervention. Et d'ailleurs, c'était très intéressant de voir notre collègue du Niger montrer le cadre logique. Donc il y a un travail énorme qui est fait pour savoir ce projet que nous voulons essayer de financer, qu'est-ce qu'on essaie d'accomplir à travers ce projet? Quel est l'objectif? Quelles vont être les activités? Quels vont être les résultats directement produits par le projet? Et quel est l'impact de long terme que ce projet est censé réaliser? Il va de soi que le temps du projet ne correspond souvent pas au temps de l'impact. Donc, du coup, il faut trouver des partenariats. Je pense que dans le monde académique, on a plus de liberté sur la capacité de mettre en place des projets de plus long terme qui dépassent en fait l'horizon du projet d'électrification. Il y a des laboratoires tels que le DIAL à l'IRD peuvent être des partenaires intéressants pour l'IED ou pour d'autres personnes sur le terrain pour justement réfléchir quelle va être la stratégie de mesure de l'impact de ce projet. Nous, à l'IRD ou même nous au DIAL, nous pouvons repasser 10 années après la fin du projet pour mesurer les impacts du projet sur le long terme et générer cette connaissance, quand bien même le projet est terminé. Mais ça demande en fait une réflexion ex-ante sur quelles sont les informations ou bien quel est le déficit de connaissances que ce projet peut permettre de résoudre et trouver en fait les moyens de créer cette information ensemble. Et puis sur la question de l'attribution, il y a plusieurs méthodologies qui sont disponibles pour faire de l'évaluation d'impact et savoir quels sont les effets qui sont raisonnablement attribuables à une intervention. Et tous les projets d'électrification ne cherchent pas forcément à améliorer les résultats scolaires des élèves. Il y a des projets d'électrification qui veulent plus viser simplement l'accès à l'électricité sans avoir aucune ambition sur des impacts de long terme. Donc il ne faudrait pas non plus essayer de trouver des impacts sur l'éducation au niveau de tous les projets d'électrification. Karen, tu veux ajouter quelque chose? C'est bon? D'autres prises de parole peut-être.
Juste un tout petit point parce que on est complètement dans l'objet de la session. Autant sur la gouvernance hier, il y a probablement des sujets qu'on aurait pu traiter, qu'on a moins traités. Autant là, on est bien dans le débat. Et je pense qu'il ne faut pas omettre que même l'IRD, DIAL, représenté entre autres par Lisa ici, même l'IRD, quand ils voudront faire ces travaux-là, ils auront besoin de quelqu'un et de leur finance. Et donc le débat sur le financement de l'impact est un débat et c'est une des réflexions qui nous a amené à faire cet atelier, c'est que on peut pas dissocier l'initiative d'un projet, la volonté d'engager une politique au service d'un pays, quelle que soit la forme, hein, du grid ou du off-grid, du fait qu'il y a des facteurs de transformation, il y a des éléments de la transformation qu'il faudra mesurer, ne serait-ce que pour identifier les meilleures pratiques, et que ça, c'est quelque chose qui doit, à un moment donné, faire l'objet d'une prise en compte dans le financement. C'est moins fait aujourd'hui que ça ne pourrait l'être, peut-être aussi parce que les méthodologies n'existent pas pour les projets isolés, hein, donc on l'a bien vu avec nos amis d'Électriciens sans frontières, c'est coûteux de faire avec les méthodologies qui existent, on faut peut-être inventer des méthodologies moins coûteuses, mais c'est un travail qui est un peu devant nous. Alors j'ai Karen qui maintenant lève la main, Jean-Claude, Cyril, Michel, oulala. Alors, si vous pouviez être le plus rapide possible, parce qu'on est déjà un peu en retard, et on peut prendre 20 minutes de retard, mais pas plus. Non, je commence à Jean-Claude déjà.
Ok, merci. Je voulais revenir sur un peu l'acteur manquant de la session d'hier après-midi, qui est la structure de gouvernance locale. Il me semble qu'un certain nombre de sujets qui ont été abordés ce matin renvoie, mais de manière assez implicite, sauf peut-être dans ce qu'a dit Anjali à la fin de son exposé, sur le rôle essentiel que doit jouer la structure de gouvernance locale. Alors, ça peut être plein de choses différentes. Ça peut être une collectivité territoriale organisée de manière formelle, ou ça peut être un conseil des anciens. Donc ça peut être très formel, ou ça peut être très traditionnel. Mais dans tous les cas de figure, quand on met en place un projet de ce type-là, on a en face de soi une collectivité locale, quelle que soit la manière dont elle est organisée. Et cette collectivité locale, elle est centrale pour deux aspects. Le premier, c'est que si on veut avoir des impacts, ça a été dit à plusieurs reprises, il faut associer des initiatives complémentaires. Et ces initiatives complémentaires, elles doivent venir en particulier de la collectivité locale. Éducation, santé, éventuellement organisation d'une zone d'activité artisanale. Tout ça, c'est des initiatives qui relèvent de la politique publique locale, de l'action collective locale. Et donc, si on oublie ces acteurs dans la conception du projet, on risque évidemment de ne pas atteindre les impacts qu'on souhaiterait avoir. Et sur un deuxième point qui est l'aspect de la mesure des impacts, il a été dit à juste titre que la mesure des impacts, c'est un bien public. Et de nouveau, je pense que la collectivité locale devrait être au cœur de ça, parce que c'est sans doute les premiers intéressés, parce que ce sont des producteurs de biens publics, à avoir une évaluation de l'impact du projet sur leur collectivité. Et je pense que c'est important. Je crois que c'est Angélique qui a dit tout à l'heure que maintenant on a des méthodes d'enquête rapide par téléphone, etc., qui permettent de collecter beaucoup d'informations à distance. Je pense qu'on en reparlera dans la session suivante. C'est bien, mais je pense que les informations qu'on collectera seront insuffisantes et probablement biaisées aussi, parce que quand on enquête par téléphone, on enquête que des gens qui ont le téléphone. La structure de collective locale, quelle que soit encore une fois sa forme, doit être mobilisée pour la mesure des impacts.
Oui, donc Karen Rousseau, moi je suis chargée d'évaluation à l'AFD et je travaille spécifiquement avec le département de l'énergie. Donc sur le financement de l'impact, je voudrais juste rebondir sur ce que disait Kenneth et sur la stratégie qu'on a nous à l'AFD pour financer des évaluations d'impact. On différencie des évaluations de projet qui sont des évaluations relativement légères où on va regarder ex post ce qui a été fait dans le projet et sur ces évaluations-là, on va regarder les réalisations, les résultats, mais on a beaucoup de mal à aller voir l'impact évidemment. Et vous voyez réalisation, résultat, impact, on va dans le plus profond. Donc ça, ce sont des évaluations, on en fait sur 50% des projets. Et dans certains autres cas, on évalue l'impact. Et là, évidemment, c'est des évaluations qui sont très coûteuses. On dit que c'est coûteux, c'est combien? C'est entre 200 000 et 500 000 euros, en fonction de ce qu'on veut évaluer. Donc vous voyez bien qu'on peut pas le faire sur tous les projets. Et hors de question de mettre cet argent-là sur tous les projets. Donc on se pose la question de où le mettre. Et on est un des bailleurs, je pense, bilatéraux, qui a historiquement investi ce champ d'évaluation d'impact peut-être en premier, et qui continue à le faire. On discutait récemment avec la Banque Asiatique de Développement qui a décidé d'arrêter de financer l'évaluation d'impact et qui, à la place, finance des revues de littérature sur des évaluations d'impact. Et d'ailleurs, ils en ont eu une en cours sur l'impact de l'accès qui sera disponible, je pense, en février 2019. Enfin, donc tout ça pour dire qu'on a des critères de choix et que parmi ces critères, il y a évidemment le fait que l'évaluation va répondre à un gap de connaissances dans la littérature. Et par exemple, ce critère-là nous a conduit à ne pas faire certaines évaluations qu'on nous a proposées sur des projets d'électrification, je vais dire classiques, sur lesquels on n'a pas les mesures d'accompagnement, etc. Puisque pour ces projets-là, on a déjà évalué ce type de projet dans le passé. On montrait qu'il n'y avait pas d'impact visible, significatif sur l'éducation, sur la santé, sur les activités économiques, parce qu'il n'y a pas de mesures d'accompagnement. Et par ailleurs, on a suivi depuis la littérature, il y a des études récentes qui montrent qu'effectivement, il n'y a pas d'effet. Donc, on ne va pas refaire une évaluation pour remontrer qu'il n'y a pas d'effet. Voilà, donc l'intérêt de regarder le gap dans la littérature. Et maintenant, nous, ce qu'on va regarder, c'est effectivement d'essayer de voir si, en plus de répondre à un gap, ça va pouvoir avoir un peu une sorte d'universalité et répondre à des questions plus larges que dans le pays, que dans le projet. Et en termes de méthode, je vais aller très très vite, on est agnostique, et je pense que ce qu'a dit Kenneth est très important, c'est-à-dire qu'il faut d'abord se poser la question de quelle est l'hypothèse causale qu'on va tester, c'est-à-dire quelle est la question qu'on se pose à travers l'évaluation, et ensuite on voit la méthode. Et évidemment, on est très tous enclins à avoir des méthodes quantitatives qui peuvent attribuer strictement l'effet à l'intervention, mais il existe plein d'autres méthodes, et dans des cas isolés, et quand on n'a pas de comparaison, et quand on n'a pas de baseline, et etc. Donc je pense que d'abord, il faut se poser la question de quelle est l'hypothèse causale et l'impact, et les méthodes, il en existe plein, et des méthodes d'évaluation d'impact plus qualitatives, et la plupart du temps, en fait, on se retrouve sur des méthodes mixtes, c'est-à-dire quali, quanti, voilà.
Merci. Oups, je cours pour éviter de perdre du temps de transport.
Bonjour, je suis Renée Tchaouberoff, directrice générale de Pamiga et Pamiga Finance. Je suis enchantée de constater que l'IED aussi a créé son fonds d'investissement, parce que je pense qu'effectivement, il est très important de pouvoir vraiment travailler sur les deux aspects, donc aussi bien la dimension assistance technique que la dimension investissement, pour pouvoir assurer une pérennité des actions que l'on veut mener. La première remarque que je voudrais faire, c'est que moi je viens du secteur de l'inclusion financière, hein, et ce genre de débat a été déjà fait il y a à peu près 10-20 ans sur doit-on opposer la rentabilité et impact. Et je pense que c'est un faux débat, et en tout cas au niveau de l'inclusion financière, nous avons résolu ce problème-là, puisque il n'y a pas de trade-off entre rentabilité et impact. Il y a de l'impact d'autant plus durable qu'on arrive à trouver les solutions pour rentabiliser les actions que l'on mène. Et la bonne nouvelle, c'est que aujourd'hui, dans le secteur, au-delà des kits solaires et des lanternes, on va de plus en plus vers des mini-grids, et on va vers le productif. Donc ça me paraît déjà un grand progrès du secteur vers la possibilité de générer réellement de l'impact. Je veux aussi parler d'une sorte d'impact dont on parle peut-être pas suffisamment, c'est l'impact sur la dimension collaboratif entre les différents acteurs qui sont les stakeholders, hein, qui sont impliqués dans l'électrification décentralisée. Et dans cet impact-là, c'est-à-dire le décloisonnement et l'apprentissage à travailler ensemble, à pouvoir co-construire un bien aussi bien privé que commun, collectif. Je trouve que effectivement les collectivités locales doivent être associées à cette co-construction, non pas nécessairement sous l'angle des services publics qui vont offrir, hein, l'électricité pour les écoles, les centres de santé, etc., mais sous l'angle de l'attractivité des territoires, puisque de plus en plus de collectivités locales veulent attirer des entreprises, ou au moins garder des entreprises, ou favoriser le développement des entreprises au niveau de leur territoire, et donc, effectivement, le mini-grid, l'électrification décentralisée, est un facteur majeur de l'attractivité des territoires pour ces collectivités-là. Donc vraiment travailler avec les collectivités locales pour les associer dans la conception de ce type de projet, c'est une façon d'augmenter l'impact et de pouvoir avoir un impact bottom-up, donc centré sur la demande. Alors, peut-être le dernier point que je voudrais faire, c'est que, toujours en me référant à ce que l'inclusion financière a réussi à faire, hein, pour pouvoir justement dépasser le coût exorbitant des études d'impact utilisant la méthode RCT, c'est que, en réalité, bien sûr, il faut mélanger le quanti et le quali, ça c'est clairement ce que nous faisons tous déjà, mais aussi de travailler à certains outils comme en tout cas dans la microfinance, nous avons développé donc un outil de mesure des performances sociales et environnementales, c'est-à-dire donc de partir des hypothèses de performances sociales et environnementales que le projet ou l'acteur veut accomplir et l'amener à progressivement donc faire un suivi de cet impact de façon longitudinale et donc atteindre plus rapidement une façon de mesurer cet impact avec une méthodologie qui est tout aussi valable scientifiquement puisque elle est faite sur une dimension longitudinale. Et donc dans le secteur de l'inclusion financière, nous avons abouti aujourd'hui à un outil qui s'appelle le SPI4. Social Performance Indicators, c'est la quatrième version qui est totalement maintenant automatisée et qui permet effectivement de pouvoir le mesurer et qui permet à partir de cet outil de créer aussi des outils de management de l'impact, donc pas seulement de le mesurer a posteriori, mais aussi de le manager, c'est-à-dire donc de pouvoir faire des allers-retours entre les résultats rapides et la correction des résultats au fur et à mesure. Voilà.
On a vraiment plus beaucoup de temps, donc hyper rapide. Je vois qu'il y a Michel qui lève la main. C'est Cyril.
Bonjour, Cyril Renaud, donc Division Énergie AFD. Un commentaire et une question, une remarque et une question. La remarque, c'est, je pense que c'est important, c'est un retour d'expérience qu'on a eu sur différents projets, je pense que c'est important de se poser les questions aussi de l'évaluation d'impact dès le départ du projet. On a eu un exemple, notamment avec IED, hein, sur le suivi de la qualité du service. En fait, on avait un financement qui était output-based aid, donc un financement lié aux résultats, notamment sur la qualité du service, donc pas uniquement sur notamment la qualité du service après-vente, pas uniquement sur le nombre de réalisations. Et en fait, comme on avait mal intégré la collecte des informations un peu en amont, les choses se faisaient un peu de manière manuelle, c'était une vraie difficulté. Et donc, je pense que c'est important aussi, de dès le départ du projet, de bien dimensionner, peut-être quand il y a un appel d'offres, les questions liées aux données que l'on souhaite collecter au travers du projet et la manière dont elles seront collectées et vérifiées. Ça, c'est le premier point. Il y a aussi à noter aussi sur les questions d'impact que l'on traite dès le départ du projet, c'est l'impact carbone. C'est vrai qu'on est dans la nécessité d'accompagner les transitions énergétiques. Les projets d'accès à l'énergie se traduisent très souvent par une consommation additionnelle et parfois des émissions additionnelles. Et c'est important aussi mais pas forcément parce que ça dépend quelle est c'est une référence. Donc c'est important aussi d'intégrer ces questions d'évaluation ex ante, probable impact carbone. Et ma question, en fait, c'était pour les développeurs. Moi, ce que je trouve intéressant dans l'évaluation d'impact, c'est aussi le retour d'expérience que vous avez, notamment sur le dimensionnement des systèmes, et notamment sur un point qui me paraît très sensible, c'est l'augmentation de la demande dans le temps, surdimensionné avec le risque de surdimensionnement du système, donc d'un coût d'un LCOE plus important que celui que l'on imagine au départ. Et ma question, c'est comment quelles sont les hypothèses, est-ce que vous avez des proxys, quelle est votre démarche pour tirer les leçons des programmes en cours et pour arriver à estimer cette augmentation de la demande, sachant que c'est quelque chose de très compliqué. Je prends l'exemple du Cambodge. L'année dernière, plus 25% de l'augmentation de la demande au niveau national, alors qu'il partait sur des hypothèses de 8%.
Je ne sais pas si on va répondre là maintenant, parce qu'on a une demi-heure de retard quasiment. Donc, ce que je vous incite à faire, c'est prendre attache avec les uns et les autres et avoir cette conversation bilatérale autour de 10 minutes de café. Je donnerai la parole à Michel un peu plus tard dans la journée, peut-être pas maintenant parce que c'est bon, je crois qu'on oui, si à mon sens, si quelqu'un peut donner une réponse rapide là-dessus, mais je crains la notion fluctuante de la notion de rapidité. Et comme on est un peu en retard, peut-être que discussion.
Alors, rapidement, hein. Deux mots, c'est.
Oui, juste deux mots. L'avantage des systèmes décentralisés par rapport à ça, c'est de pouvoir être modulaire. Donc, en fait, la manière dont on estime le risque que l'on prend, c'est en intégrant cette modularité, c'est-à-dire en se disant, si je suis dans une hypothèse haute mais que je veux optimiser, qu'est-ce que je fais comme génie civil, que ce soit pour une centrale hydro, en disant, bon, je sais que à l'horizon de 20 ans, j'aurai peut-être besoin de mettre 4 turbines, j'en mets 2 maintenant, je fais tout le génie civil, donc c'est un élément de risque, mais c'est un élément d'optimisation. La troisième, la quatrième, je ne sais pas si j'en aurai besoin dans 3 ans, dans 5 ans ou dans 7 ans. Sachant que le challenge derrière tout ça, c'est j'ai mobilisé des financements aujourd'hui pour faire la première tranche, comment est-ce que je ferai pour mobiliser la deuxième et la troisième? Mais c'est comme ça qu'on essaye d'optimiser et de cadrer le risque qu'on prend.
Michel, tu voulais... C'était... Ah, si tu t'en vas, je comprends.
Un tout petit mot. En 2009, Esther Duflo, dont on a parlé récemment, tenait la chaire lutte contre la pauvreté au Collège de France. Je suis allé lui poser la question, est-ce que vous avez déjà fait des évaluations de projets énergétiques, électriques, etc. Elle m'a dit non, personne ne m'a demandé. 10 ans plus tard, donc, comme vous le savez, elle a eu le prix Nobel avec deux de ses collègues du GIPAL, et je suis allé voir sur le site de l'Estat du Flot. Il y a un petit millier d'opérations qui sont là. Il n'y en a pratiquement aucune sur l'électrification et sur l'énergie. Donc ma question, c'est simplement, ce que je peux dire, c'est simplement qu'il y a une place à prendre. Une place à prendre, et c'est ce qu'on a laissé se faire avec Café Lumière, avec la Ferdi. Bon, pas de financement, comme l'a dit Hervé, on va le trouver. Parce qu'on est une ONG, on n'est pas une entreprise, comme Anjali l'a dit. Mais voilà, il faut pas trop attendre, quoi. Parce que il faut que ça avance.
Oui, et je pense que le commentaire de Michel est tout à fait en lien avec le débat sur les solutions isolées. Le problème de l'off-grid, c'est que il n'y a pas des grands plans d'électrification d'off-grid, et les solutions isolées sont orphelines entre guillemets des méthodologies d'impact. La RCT, ça coûte très cher, 200 à 500 000 euros, et personne n'imaginera de faire une RCT normale sur des cafés-lumière avec 6 villages. Donc il faut arriver à trouver des méthodologies d'impact qui s'adaptent à ce type de projet, et c'est un peu, on va dire que la phase 2 de nos réflexions, c'est est-ce que cet atelier nous amènera à une réflexion qui serait plus poussée sur justement une méthodologie d'impact ou la construction, conception, IRD, DIAL, le Panthéon-Sorbonne autour de ce sujet.